Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « La philosophie de A à Z auteurs ». Œuvre et notion philosophique est un dictionnaire encyclopédique collectif, associé notamment à Pierre Kahn, Elisabeth Clément, Laurence Hansen-Leuve et Chantal Demanck. Son ambition n'est pas de défendre une doctrine unique, ni de proposer un parcours continu de l'histoire de la pensée. Il met plutôt à disposition un instrument de consultation structuré par ordre alphabétique. Les articles portent sur les notions majeures, les concepts techniques, les philosophes, les œuvres de référence, ainsi que certains mythes et personnages devenus des repères de la culture philosophique. Cette organisation répond à un besoin précis, pouvoir éclaircir une question, situer un auteur ou relier un terme du programme à des textes et à des problèmes plus larges. L'ouvrage vise en priorité les élèves de terminale et les étudiants du premier cycle universitaire. La présentation synthétique cherche à rendre abordables des contenus exigeants, sans réduire la philosophie à un simple lexique de définition isolée. Il sert ainsi autant à préparer une épreuve qu'à construire des repères durables pour lire, comparer et problématiser. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, un abécédaire conçu pour passer du terme isolé au problème philosophique, le choix de l'ordre alphabétique donne à l'ouvrage une fonction immédiatement pratique. Un lecteur peut partir d'un mot rencontré dans un cours, un sujet d'examen ou un texte, puis accéder rapidement à une notice qui en précise les usages philosophiques. Mais l'intérêt du dispositif ne se limite pas à la rapidité de consultation. En philosophie, des mots ordinaires tels que liberté, conscience, justice ou vérité prennent souvent un sens plus rigoureux que dans la conversation courante. Une notice permet donc de distinguer les acceptions, de faire apparaître les difficultés attachées aux termes et de signaler les liens avec d'autres notions. Cette clarification est décisive pour éviter les copies qui se contentent d'opinions spontanées ou de définitions vagues. L'abécédaire favorise aussi une lecture non linéaire. On peut suivre les renvois intellectuels entre concepts, auteurs et œuvres, et comprendre progressivement qu'une notion n'existe pas indépendamment des problèmes auxquels elle répond. Cette méthode convient particulièrement au travail de révision, elle permet de cibler une lacune précise tout en ouvrant vers un réseau de connaissances plus vaste. Sa limite est inhérente à son format, le lecteur doit lui-même organiser ses informations dans un plan, une argumentation ou une lecture suivie. Le livre fournit des repères structurants, non une pensée à réciter. Deuxièmement, les notions du programme comme outil de définition, de distinction et de problématisation. L'une des fonctions centrales de ce dictionnaire consiste à accompagner l'étude des grandes notions philosophiques, notamment celles qui organisent l'enseignement de terminale. Une préparation solide ne consiste pas seulement à mémoriser des auteurs, elle exige de savoir définir un concept, distinguer ce qui lui est proche et formuler la question qui le rend possible. Par exemple, étudier une notion demande de repérer les tensions qu'elle contient, les objections qu'elle suscite et les domaines auxquels elle s'applique. Le format des notices aide à transformer un intitulé scolaire en problème intellectuel. Il fournit un vocabulaire plus précis pour analyser les rapports entre le sujet, autrui, la société, la connaissance, la morale ou la politique. Dans la nouvelle édition, les notions du baccalauréat sont associées à des notices développées et à des citations expliquées, ce qui renforce l'utilité pédagogique de l'ensemble. Les citations ne devraient toutefois pas être utilisées comme des ornements d'érudition. Leur valeur tient à la possibilité de repérer une thèse, son contexte conceptuel et l'usage argumentatif que l'on peut en faire. L'ouvrage encourage ainsi une discipline de travail commencée par établir le sens des termes, confronter plusieurs approches, puis élaborer une problématique. Cette progression protège contre deux écueils fréquents, le résumé de cours sans question directrice et l'opinion personnelle non examinée. Troisièmement, auteurs et œuvres des repères historiques sans réduire la philosophie à une galerie de noms. Les entrées consacrées aux auteurs majeurs et aux œuvres de référence remplissent une fonction de contextualisation essentielle. Les théories philosophiques ne sont pas seulement des définitions abstraites. Elles sont élaborées par des penseurs qui répondent à des questions sur la connaissance, la morale, la politique, la religion, l'art ou l'existence. Situer un auteur permet donc d'associer une pensée à des thèses, à des concepts et à des textes plutôt que de retenir un nom de manière décorative. De même, les notices sur les œuvres aident à identifier leur place dans l'histoire de la philosophie et les problèmes qu'elles rendent particulièrement visibles. Pour un étudiant débutant, ce cadre facilite la comparaison entre positions différentes. Il devient plus simple de comprendre que deux philosophes peuvent employer un même mot sans lui donner la même portée, ou qu'un désaccord porte sur une conception distincte de la raison, de la nature humaine ou de la liberté. L'ouvrage ne remplace pas la lecture des textes eux-mêmes. Une notice condense nécessairement des débats qui ont parfois une grande complexité. Elle joue cependant un rôle utile de seuil, elle indique pourquoi une œuvre est importante, quel concept y rechercher et à quelles questions la rattacher. Cette articulation entre repères biographiques limités, doctrines et textes rend le dictionnaire plus formateur qu'un simple répertoire de dates ou de citations. Quatrièmement, mythes, personnages symboliques et citations expliqués pour élargir la culture philosophique. La présence de mythes et de personnages symboliques rappelle que la philosophie se développe aussi en dialogue avec des récits, des figures culturelles et des images intellectuelles. Ces références peuvent condenser des interrogations durables sur la condition humaine, le savoir, le pouvoir, la loi ou le désir. Les inclure dans un dictionnaire de philosophie évite de présenter la discipline comme un ensemble fermé de termes techniques. Elle montre au contraire que les philosophes interprètent, discutent ou transforment des héritages littéraires, religieux et politiques. Pour les élèves, cette ouverture est utile à condition de ne pas confondre références culturelles et arguments. Un mythe peut servir à poser un problème ou à illustrer une opposition, mais il ne dispense jamais d'expliciter une thèse et de la justifier. Les citations expliquées vont dans le même sens. Elles peuvent rendre sensible la formulation propre d'un philosophe et initier à la lecture de textes parfois difficiles. Leur explication est particulièrement importante, car une phrase isolée risque d'être mal comprise si ses concepts ne sont pas définis. Le livre fournit ainsi des matériaux pour enrichir une dissertation, un commentaire ou une réflexion personnelle, tout en invitant implicitement à les employer avec précision. Cette dimension culturelle distingue l'ouvrage d'un manuel limité à des fiches de cours. Il relie l'apprentissage des notions à un horizon plus large de références et de textes. En dernier lieu, un outil de travail autonome dont la richesse suppose sélection et approfondissement, avec près de 1000 articles dans sa nouvelle édition. L'ouvrage offre une couverture suffisamment ample pour devenir un compagnon de travail régulier. Cette abondance est un avantage pour le lecteur qui veut vérifier un terme, compléter une leçon ou élargir une révision à des domaines connexes. Elle permet de passer d'une difficulté ponctuelle à une compréhension plus transversale des questions philosophiques. Toutefois, la richesse même du dictionnaire impose une méthode. Lire de nombreuses notices sans objectif risque de produire une accumulation de connaissances dispersées. Pour préparer un devoir, il est plus efficace de commencer par le sujet, d'identifier les termes qui demandent une définition, puis de sélectionner les articles, auteurs et citations susceptibles de nourrir une question précise. Après cette étape, il faut reformuler les idées avec ses propres mots et établir les relations logiques entre elles. Le dictionnaire devient alors une ressource pour penser plutôt qu'un recueil de formulations prêtes à l'emploi. Son public naturel est celui qui entre dans la discipline et cherche des appuis fiables. Mais il peut aussi servir à des lecteurs plus autonomes désireux de retrouver rapidement une référence. Il ne remplace ni un cours progressif, ni les textes philosophiques intégraux, ni l'exercice de l'argumentation. Sa force réside dans sa complémentarité, il rend ses pratiques plus accessibles en donnant des points d'entrée clairs et étendus. En conclusion, la philosophie de A à Z s'adresse d'abord aux lycéens qui préparent l'épreuve de philosophie et aux étudiants de premier cycle qui ont besoin de consolider leurs repères. Il convient également aux lecteurs non spécialistes qui souhaitent vérifier un concept, découvrir un auteur ou comprendre la place d'une œuvre dans les grands débats de la pensée. Son bénéfice pratique est net, l'ordre alphabétique rend la consultation rapide, tandis que l'ampleur des entrées permet de dépasser une définition minimale. Sur le plan intellectuel, le livre apprend à traiter les mots philosophiques comme des problèmes, à relier des thèses à des textes et à ne pas isoler les auteurs de leurs questions propres. Il constitue donc un bon support de révision, de préparation à la dissertation et d'initiation à la lecture philosophique. Par rapport à un manuel chronologique, il offre une plus grande souplesse de parcours, chacun peut entrer par une notion ou une difficulté concrète. Par rapport à un dictionnaire très spécialisé, il se distingue par son orientation pédagogique, son attention au programme de terminale et ses associations de concepts, auteurs, œuvres, mythes et citations expliquées. Cette diversité ne dispense pas d'un travail personnel de lecture et de synthèse, mais elle en facilite les premières étapes. Le livre est particulièrement utile à ceux qui cherchent un instrument de référence dense, accessible et capable d'accompagner une progression autonome sans prétendre remplacer l'étude directe des textes. Si vous souhaitez soutenir Pierre Kahn, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.